L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 297e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, comme chaque quinzaine, sauf que là on est tout le mois, on a pris quelques vacances pour les ponts de mai.
J'ai déménagé surtout.
Voilà, c'est pour ça que c'est la période propice. Nous sommes de vrais Français, nous ne travaillons pas au mois de mai. Hashtag dédicace François Bayrou si tu nous écoutes. Donc, on est de retour pour ces dernières semaines de saison, hein, puisque là, ça s'approche. Hein, il reste un mois et demi d'émission avant les vacances, avant les grandes vacances. Et en tout cas, on a fait le plein d'actualités. Et on va commencer, comme de coutume, par les actualités Internet et vie privée. Alors, la première news, alors, c'est pas forcément la plus grand public, mais c'est GitHub qui était devenu... plateforme, je dirais, leader dans l'hébergement de projets libres et qui sombre.
Qui sombre. Alors, tout à fait. Donc, très très rapidement, rappel de l'historique. Donc, il y a toujours eu sur Internet, depuis les années 90, des forges logicielles, ça s'appelle, donc des sites qui regroupent des développeurs où les développeurs vont déposer leur code source, les programmes générés, et comme ça, ça permet de partager, youpi. Git est arrivé vers 2005-2006 de mémoire, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, et GitHub a embrayé en exploitant cette grande avancée technologique. C'est la deuxième révolution insufflée par Linus Torvalds dans le monde de l'informatique, et GitHub est devenu avec le temps le leader, alors presque incontesté, de l'hébergement de projets Git, et donc le monde du logiciel libre est massivement disponible, voire dépendant de GitHub. Il y a quelques exceptions qui utilisent des GitLab, Gitty,
Forgeo, Git est un logiciel, est un outil qui est forcément hébergé sur le site de GitHub.
Voilà, Git est bien un outil bien séparé, et il y a plein de concurrents qui existent. Mais GitHub reste...
Vous pouvez héberger votre propre Git.
Exactement. GitHub reste le leader du marché, et là, il se trouve que depuis quelques années, ça se passe pas bien. Mais vraiment pas bien du tout.
Pour un projet, une forge très utilisée pour les projets libres, ça a déjà été racheté par Microsoft en 2018.
Exactement. Et c'est en 2018 que il y a eu un problème.
Et on a dû en parler à l'époque.
On en a parlé tout à fait. Et en fait, il y a lorsqu'on parle de services en ligne, on parle de disponibilité, d'uptime. Et grosso modo, les courbes d'uptime de GitHub coïncident quasiment avec la dégringolade coïncide avec l'acquisition par Microsoft. La disponibilité de GitHub d'avril 2016 à octobre 2018 était quasiment systématiquement à 100%, c'est-à-dire pas d'interruption de service sur le mois. Donc l'achat de GitHub par Microsoft a eu lieu en octobre 2018, fin de l'année 2018 plutôt. Il y a eu une première baisse de la disponibilité courant 2019, mais grosso modo, c'était pas catastrophique, c'était pas inquiétant. Et depuis, c'est l'hécatombe, et on est arrivé même à des périodes où la disponibilité, alors on parle de disponibilité de service, on parle de l'objectif miraculeux des 4.9, des 5.9, donc 99,999% de disponibilité, c'est-à-dire que vous avez quelques secondes de coupure autorisée par an. C'est les tops des objectifs. GitHub, on commence à approcher du pas de 9. Moins de 90% de disponibilité par an.
On dirait le maître lillois.
Non, mais là, on est vraiment sur la catastrophe industrielle.
Alors, tu parlais du rachat par Microsoft, corrélation n'est pas causalité, mais il y a quand même un indice.
Ah non, mais là, il y a un gros indice. Parce qu'en fait, Microsoft qui rachète GitHub, ça veut dire Alors ça, j'adore ce principe-là cher aux capitalistes. Personne n'est irremplaçable. Oui, sauf que quand vous virez les gens qui gèrent, qui maintiennent, qui connaissent par cœur l'infra, ou quand les gens s'en vont parce qu'ils ne vous aiment pas, là, vous avez perdu des choses qui ne sont pas remplaçables, vous avez perdu du savoir. Lorsque vous imposez vos décisions sur la gestion de l'entreprise, sur la gestion du projet, sur la gestion de l'hébergement, en disant « vous devez utiliser notre cloud Azure, voyons », vous allez créer des problèmes. Lorsque vous avez décidé d'imposer l'IA partout et de la mettre partout, vous allez créer de plus en plus de problèmes. Et donc, GitHub, aujourd'hui, est en train effectivement de tomber de plus en plus souvent. Là, il y a quelques semaines, la blague, c'était « Ah tiens, ça fait 3 jours que GitHub n'a pas eu de panne. Aujourd'hui, on va avoir du mal à bosser. » Et c'est triste. C'est triste d'en être arrivé là, mais toujours, il y a toujours des trucs qui tombent en panne chez GitHub. C'est l'exemple parfait de une entreprise à racheter et ça tombe en ruine partout. Alors, si GitHub survit encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout simplement une certaine inertie. C'est important d'être... Et en fait, GitHub, là où ils ont bien joué, c'est que ce n'est pas qu'un service d'hébergement. Ça a tout un côté réseau social où on peut suivre les activités d'autres développeurs.
Amis entre projets.
Exactement. On peut mettre des favoris sur les différents projets, mettre des étoiles et où on a des badges qui arrivent et tout. C'est trop bien. Alors... Pour ma part, j'ai utilisé GitHub pour des projets, ça date notamment d'avant 2018, et même maintenant, ça m'est arrivé de créer un projet juste parce que j'avais besoin que ce soit visible, mais le gros du projet reste hébergé sur mes ordinateurs et sur mes serveurs. Mais pour le côté social, GitHub a son importance malheureusement. Mais les concurrents de GitHub, les GitLab et autres, ont toute leur place, et si les entreprises se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça à héberger, peut-être qu'il y aura enfin un mouvement pour fuir cette solution qui marche de moins en moins.
On repart sur plutôt des nouvelles côté vie privée, grand public, avec donc un projet de la Commission européenne de majorité numérique, donc à l'échelle européenne. Donc, alors, on ne sait pas encore effectivement, puisque comme c'est l'Union européenne, mais il faut être différent au pays, c'est quand même, ça c'est une union d'États, donc c'est quand même des États à mettre d'accord. Donc, on serait entre 13 et 16 ans, et donc le but serait donc d'avoir une législation qui soit homogène partout en Europe. Donc ça a été fait, donc l'annonce a été faite lors d'un sommet sur l'intelligence artificielle donc à Copenhague, donc par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et donc je pense qu'on avait parlé, donc il y avait une application qui a été mise à disposition donc qui est en train d'être développée par
la Commission européenne,
donc de vérification d'âge, donc avec double facteur, mais
avec double
tiers de confiance,
voilà, tiers de confiance,
double
anonymat.
Donc le but, c'est que la plateforme ne sait pas où est-ce que, enfin,
ce que vous consultez, ce pourquoi vous avez besoin de vérifier votre âge,
ne sait pas où vous allez.
Voilà.
Donc c'est un peu la martingale. Alors, on s'est vu qu'avec les sites pornographiques, c'était essayé avec plus ou moins de succès, puisque visiblement le double anonymat n'est pas forcément...
Non, mais en fait, ça marche. Il suffit juste de mettre la carte d'identité de Dora l'exploratrice, je te rappelle.
Oui, bon, ça on en a.
Ou
parlé.
La carte d'identité de Gabriel Attal.
Ah, c'est ça. Donc c'était Next Impact qu'il y avait. Enfin, Next Inc.
Next Impact, moi je continue de dire.
Comment on doit les appeler?
Moi je les appelais PC Impact, c'était leur nom il y a 10 ans, ça marchait bien.
Donc pour le moment ça reste un projet. Donc il y a 7 États membres de l'Union Européenne qui vont donc tester cette application. Donc le Danemark, l'Autriche, la Chypre, la France, la Grèce, l'Espagne et la Slovénie. En sachant que l'âge pour le coup n'est pas encore décidé. Et ensuite, alors, je ne sais pas, alors, je ne suis pas dans les arcanes du droit européen pour savoir si la directive sera donc... devrait être transposé en législation française. En tout cas, on ne manquera pas de vous parler du sujet et encore d'en reparler, puisque c'est quand même, je pense, un de nos fils rouges au cours de nos émissions.
Ça s'appelle Next, je viens de vérifier.
Ça s'appelle
le site
Next.
Web.
Next. IA en folie, tiens, ça faisait longtemps, Pierre.
Oui. Allez, on va commencer par du rigolo. Un nouveau service lancé par Google d'IA autour de ses produits Fitbit. Donc, c'est des trucs de santé. Alors, je ne sais pas si c'est disponible en Europe, j'avoue. Je n'ai pas vérifié à ce point-là.
Parce qu'en général, Google Fit l'est en tout cas.
Ouais, mais là, leur nouveau service basé sur l'IA, je ne sais pas.
Ah, sur l'IA peut-être.
Et donc, c'est un nouveau système qui remplace Fitbit Premium, donc qui est vendu quand même à 10$ par mois ou 100$ par an, donc c'est pas négligeable. Et donc, au premier essai, le truc, il a tout de suite commencé à halluciner. Il a même admis avoir créé des données avant que l'utilisateur ne les ait saisis. L'IA est allé jusqu'à demander à l'utilisateur « Non, mais vous n'avez pas oublié de saisir une course, un jogging que vous avez fait ?»« Ben non, je viens de t'installer. » Et le pire, c'est que Les données fictives créées par l'IA n'ont pas réussi à être supprimées et tout. Enfin, c'est n'importe
sur
quoi.
Sur le coup, ça, l'application de Google détectait que vous avez fait une course à pied. Il n'y a pas besoin d'une IA, en fait. Alors, sauf appeler l'IA, tout ce qui est détection automatique.
Ah si, c'est, tout est IA.
C'est-à-dire pour arrêter, que, grosso modo, l'accéléromètre de votre téléphone remarque qu'il y a une fréquence de pas plus élevée et au final, en déduit, vous faites un footing. C'est-à-dire que ça, c'est comme une... ça fait 15 ans que ça marche sur cette application, quand même.
Oui, mais là, maintenant, il faut de l'IA avancer
de
dedans.
L'IA.
Allez, on continue. ChatGPT, positif pour l'éducation, ben ou pas. Donc, il y a une méta-recherche qui soutenait qu'il y avait un impact positif considérable.
Alors, une méta-recherche, c'est que du coup, on fait une analyse des recherches.
Voilà. Et donc, ça avait été publié il y a un an, c'était basé par des chercheurs chinois qui avaient fait ça. Et, en fait, non. La sélection des articles est problématique. Il y avait tout un ensemble de problèmes, ça n'allait pas, donc cette analyse était juste biaisée. Donc,
c'est la revue Humanities and Social Science Communication, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, expert en sciences sociales.
On continue sur l'IA de merde, sur l'IA en folie, donc Claude, l'une des solutions d'IA, donc, a une application desktop, donc Claude Desktop, donc une application pour ordinateur de bureau, et lorsqu'on l'installe, le logiciel... Tout tranquillou bilou, il décide d'aller modifier votre navigateur web sans que vous l'ayez demandé pour qu'il autorise ses propres extensions dessus. Alors que vous n'avez pas demandé ça, vous avez juste installé une application à côté qui n'est pas censée interférer avec le navigateur web. Et ben voilà, c'est petit cadeau. Allez, ça s'appelle un spyware, mais
oui,
voyez-vous...
Ça rappelle la bonne époque de Windows XP...
C'est ça. Continuons sur, d'ailleurs, les pratiques de spyware. On va parler de Google Chrome 30 secondes. Google Chrome a décidé d'installer un modèle d'IA sur votre machine. Donc un modèle d'IA, c'est juste un fichier qui contient juste des données binaires, des nombres, des poids, on va dire, pour un modèle d'IA. Et donc...
4 gigas,
c'est quand même son prix. Oui, c'est du gros fichier. Donc, je vous laisse réfléchir un instant. Donc, on est sur 4 gigaoctets. Alors, pour une machine lambda, passe encore. Là, je vous avoue, je vais faire l'expérience ici. L'ordinateur des studios, le disque dur C, dispose de 220 gigaoctets. Si l'ordinateur était utilisé par plusieurs utilisateurs, ça ferait plusieurs fois 4 gigaoctets. Ça pourrait vite représenter un espace non négligeable.
C'est 4 gigas par profil.
Ben oui, évidemment.
Ah, d'accord.
Évidemment, sinon c'est une faille de sécurité. Et autre problème, multiplions par le nombre d'utilisations de Chrome et réalisons le gaspillage monstrueux en bande passante et donc l'impact écologique de cette connerie.
Et puis le fait que vous n'avez pas signé pour...
Même si vous n'avez pas demandé.
De Google.
Voilà, c'est cadeau. Et donc, comment s'en débarrasser? En fait, il n'y a pas vraiment pas de solution clair, apparemment. On peut bloquer en modifiant une clé de registre sous Windows. C'est pas mal. C'est très intuitif comme solution. Et donc, pour les gens aussi qui payent à la consommation leur connexion Internet, il y en a encore, notamment ceux qui se retrouvent sur des connexions mobiles. J'espère pour vous que le téléchargement n'aura pas lieu au mauvais moment. Hein ? Allez, on continue une autre avec les modèles d'IA.
On arrête plus Pierre.
Non, parce que Washington a décidé d'imposer à plusieurs entreprises de leur fournir leur modèle en prime time, de manière anticipée, histoire de pouvoir les évaluer.
Early adopters.
Exactement. Autre façon anglophone de le dire. Ou, grosso modo, ils ont décidé que, les entreprises, que Microsoft, Google, XAI et autres, devront donner leur modèle au gouvernement américain pour qu'ils puissent l'évaluer. Ou en profiter avant tout le monde.
Ah, c'est beau le libéralisme.
Hein. Allez, et une dernière
fois. La liberté d'entreprendre quand ça nous arrange.
C'est ça. Et Apple pourrait finir par payer son retard sur les IA parce que ils avaient promis et vendu le fait que Siri allait être beaucoup plus mieux dans l'iPhone 16. Donc en septembre 2024. Donc on pouvait parler avec un Siri vachement plus mieux, ceci, cela. Et sauf que en fait, toutes les fonctionnalités en question qui étaient vendues en septembre 2024, on est en mai 2026, toutes ces fonctionnalités n'existent toujours pas. Donc publicité mensongère, Apple pourrait se retrouver à payer plusieurs centaines de millions de dollars, c'est-à-dire de l'argent de poche pour eux, mais tout de même, ça montre à quel point des fois il faut arrêter de vendre de la merde.
Sachant que le cash d'Apple se chiffre en dizaines de milliards de dollars.
Tu rigoles ? Ils sont en centaines.
De cash.
Oui, le cash.
Le cash, les sous.
Oui, oui, les sous-sous dans la popoche.
On revient en Europe et une bonne nouvelle, moins bonne pour les habituels détracteurs de l'Union européenne, enfin en tout cas du principe de l'Union européenne.
De beaucoup de gens.
Le Digital Market Act, ça fonctionne, Pierre.
Tout à fait. Les données sont très, très claires là-dessus. Donc c'est la Commission européenne qui le note. Donc, rappel, le DMA, c'est un ensemble de lois européennes, donc le Digital Markets Act, qui vise à réguler les marchés numériques afin de garantir la libre concurrence. Alors, dans le fonctionnement très simplifié, on va prendre juste quelques éléments dedans. Notamment, il y a eu la désignation de gatekeeper, donc de gardien du marché, qui ont des obligations d'interopérabilité que les autres n'ont pas. Par exemple, sur les téléphones portables, il y a eu l'obligation pour Google et Apple de proposer lors de la première activation de leur téléphone, proposer un autre navigateur web. Et c'est notamment sur ça que les preuves sont évidentes. En comparant les 15 mois avant et après l'introduction de ce choix de navigateur, l'utilisation de Firefox au quotidien était 113% supérieure dans l'Union européenne que ce que ça avait été avant le DMA.
Bon, après,
sur Android, 12% supérieur.
Il faut toujours se méfier des chiffres en pourcentage, parce que 113% de pas grand-chose...
Ça reste un double. C'est énorme.
Après, 113%, voilà. Quelle est l'évolution de la part de marché? Ça aurait été peut-être un chiffre un peu plus...
C'est une évolution.
Je connais
de
un parti politique qui faisait des placards en augmentant le nombre d'adhérents de 240% en passant de 500 à...
Oui, mais là, il n'y a rien qui justifie une telle variation à part l'introduction du DMA. Voilà. C'est juste ça. Donc, le DMA peut fonctionner pour contraindre les entreprises et justement régler des biais de concurrence. Maintenant, il va falloir qu'ils l'étendent un peu plus, qu'ils s'en servent plus. Et là, la difficulté, c'est que il y a quand même une contre-attaque assez forte de la part, notamment des États-Unis, qui s'opposent à la moindre forme de régulation du numérique.
Une dernière Internet et vie privée, Pierre.
Une dernière pour la route. On va prendre celle-là, elle est méchante. Google est en train de lier ReCAPTCHA au Play Services.
Alors, en quoi c'est dangereux?
Alors, en quoi que c'est dangereux? Donc, déjà, rappelle qu'est-ce que c'est que ReCAPTCHA. Donc,
c'est le truc qui vous embête. Vous connaissez tous.
Voilà, vous avez
vous
tous
tout le monde
sélectionné pour identifier quelles étaient les motos sur un ensemble de photos, ou les ponts, ou les passages piétons,
c'est
ou je sais pas quelle connerie.
D'ailleurs, je me demande si avec l'IA, ça va pas finir par devenir...
Ça devient compliqué.
Ça a servi à entraîner des IA, donc il y a un moment, ça va bien se retourner contre eux.
Voilà, tout à fait. Mais donc, le ReCAPTCHA existe de la part de Google, et justement, ils ont ce problème-là, les IA commencent à l'emporter. Les IA commencent à gagner trop facilement face à ça. Et donc, ils ont décidé d'améliorer le système sur les téléphones Android en rendant ReCAPTCHA dépendant des Play Services. Et donc, lorsque vous êtes sur votre navigateur internet, sur votre téléphone portable, vous allez sur un site web qui a un ReCAPTCHA, et là, votre téléphone n'est capable d'y répondre que si vous avez les services Google qui ont été installés sur le téléphone. Si
vous avez un téléphone Android. Et donc, si vous êtes sur un desktop,
ce n'est pas concerné, heureusement, pour l'instant. Pour l'instant, c'est toujours important de se dire, ils commencent à introduire ça, je ne sais pas ce que ça va faire pour les autres. Et la conclusion, c'est que si vous utilisez...
Et du coup, pour les Apple ?
Apple, il y a une exception aussi sur iOS apparemment. Donc pour l'instant, il y a cette protection-là. Mais bientôt, ça veut dire que des téléphones qui n'ont pas de service Google, donc les téléphones qui sont sous GraphenOS ou les téléphones avec des Elementary OS et autres, ben ces téléphones-là, vous l'aurez dans le fion. Moi, pour ma part, j'ai pas de Play Services. Je me demande à quelle sauce mon Firefox va être mangé. Après, l'avantage, c'est que j'ai pas un système Android complet. Donc à suivre, mais ça, encore une manœuvre de Google pour enfermer les gens dans leur propre univers. Je rappelle ce qu'on a dit avant sur le DMA qui a pour but d'empêcher l'abus de position dominante. C'en est un beau. Merci. Au nom de la sainte sécurité, évidemment. Pardon, j'avais oublié.
Et dans la séquence à venir, donc les actualités encore et encore. En attendant, on va écouter un premier morceau de musique. Nous allons écouter Modern Pitch, Give Me Hope. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com.
I
I was loneliness and sickness of a life and all its pain. Cause the chase no happy ending, although we try. And the day among the faces I saw yours, it was so bright. I realized I was not lonely after all. Whoa, I wanna feel. Whoa, I wanna live. Whoa, just open love. Whoa, so here we come. Hope is done.
Pitch, give me hope. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus. C'est la deuxième partie des actualités et on va parler sécurité. Et on va continuer sur l'IA. Et l'IA, pour le meilleur ou pour le pire, permet de trouver beaucoup plus rapidement des failles de sécurité. Pierre, et il y en a quelques-unes qui piquent et qui concernent notamment Linux.
Tout à fait. Et moi, je suis plutôt d'avis que c'est pour le meilleur dans une. Enfin, c'est en en partie pour le meilleur. Donc on va juste faire un rappel du fondamental de la sécurité informatique, en particulier sur le monde du libre et de l'open source. L'idée de base, c'est dire, avec beaucoup plus de gens pour regarder et analyser le code, les bugs sont trouvés beaucoup plus facilement, et donc les failles de sécurité sont corrigées plus facilement, et donc le système est plus fiable. C'est le prémisse qui vaut encore aujourd'hui sur l'argument le libre, l'open source, c'est mieux pour la sécurité, non pas juste pour des raisons techniques, mais juste le code est disponible, plus de gens peuvent le lire. Dans la pratique, lire le code de noyau Linux, ça n'a jamais été évident, en particulier le lire dans une optique où sont les failles de sécurité. Il y a toujours eu des trucs qui sont passés à travers, de la même façon que dans n'importe quelle entreprise, des saloperies passent à travers les processus de relecture de code. Une entreprise avec laquelle j'ai travaillé jusqu'il y a peu a avoué que les processus de relecture du code sur le noyau Linux, c'est quand même pénible. Et dans la même phrase, il nous avait dit c'est gênant parce qu'on relit pas assez notre code en interne. Trouvez l'erreur, merci, vous êtes quand même l'une des entreprises qui a les plus grosses capitalisations boursières au monde, ne cherchez pas, qui sait. Et donc, la relecture de code, c'est quelque chose qui est très chiant, qui est surtout dans la recherche de failles de sécurité. Et c'est quelque chose qui s'automatise plutôt bien. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir, pour le meilleur, mais notamment, donc c'est Greg KH, donc, enfin Greg Croix Hartman, l'un des principaux développeurs et mainteneurs du noyau Linux, qui a commencé à utiliser une machine chez lui pour automatiser la recherche de bugs et la relecture de contributions au noyau Linux. Donc le tout en local, sans utiliser d'IA, d'OpenAI ou autre. Mais d'un autre côté, il y a eu plusieurs failles de sécurité qui ont été découvertes et révélées dans des délais trop courts pour que ce soit corrigé partout, et notamment trois failles critiques sur le noyau Linux, donc elles ont eu leur petit nom, alors copy fail, dirty frag et SSH keysign pound, donc qui ont permis diverses exploitations. On va pas rentrer dans les détails. Les principaux problèmes soulevés par ça, ils sont de deux ordres. Tout d'abord, il y a le fait que quand l'IA est utilisée pour trouver une faille de sécurité, en général, si un chercheur a trouvé la faille de sécurité en utilisant une IA, ça veut dire que n'importe qui, en utilisant la même IA, et en général les chercheurs n'utilisent pas leur propre IA, n'importe qui en utilisant la même IA peut trouver la même faille. Donc il faut considérer que toute faille trouvée par une IA est une faille connue publiquement et qu'elle doit être corrigée dans les délais les plus brefs. Ce qui crée un certain travail pour les humains qui maintiennent derrière. Et deuxième chose, les failles des fois ont été signalées et diffusées avant même que la correction n'ait eu le temps d'être diffusée. Ça, c'est un gros problème. Et donc le noyau Linux a deux réactions face à ça. Donc ils ont bien redécrit le processus à suivre pour la découverte de failles de sécurité, qu'est-ce qui qualifie une faille de sécurité, etc., pour être sûr d'essayer de décharger au maximum les développeurs du noyau de choses qui n'étaient pas des problèmes de sécurité. Et la deuxième chose qui est majeure ici, c'est un gros changement, mine de rien, pour le noyau Linux, même si les conséquences vont être mineures pour tout le monde. Le noyau Linux a commencé à faire exactement une grosse purge de vieux pilotes un peu partout.
Parce que c'est un système, plus il y a de logiciels, plus il y a de code, plus il y a de risques de failles de sécurité. On augmente la surface.
Exactement. Et le noyau Linux, jusqu'à maintenant, et ça ne change pas, le noyau Linux en fait considère qu'un pilote pour le matériel ne doit pas vivre à côté du noyau, il doit être intégré au noyau Linux. Donc en théorie, le noyau Linux doit contenir le code pour tout le matériel qui a été sorti de la création de l'informatique jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où Linux peut tourner sur la machine, il faudrait que le matériel de la machine soit connu intégralement du noyau Linux. C'est un principe de base, on pourrait en débattre. Oui, en parler
ce
longuement.
Qui permet, avec n'importe quel matériel, d'utiliser la version la plus récente, la plus à jour, avec tous les correctifs de sécurité. Parce qu'on pourrait se dire, on va utiliser une ancienne version. Le problème de l'ancienne version, c'est qu'il y a des failles de sécurité découvertes entre-temps.
Ou des bugs, tout simplement. Des fonctionnalités qui n'ont pas été intégrées. Mais aujourd'hui,
C'est pas forcément gênant. Dire, si une version Intel du noyau Linux vous suffit, les bugs qui existent ne vous concernent pas. C'est-à-dire que ça peut aller, sauf que vous n'êtes pas à l'abri du coup de failles de sécurité, c'est ce que je voulais dire.
Exactement. Et donc, il y a toute une réflexion sur ça. Alors, la réaction du côté du Linux, ça a été de dire, on va réduire la surface d'attaque, parce qu'il y a beaucoup de failles qui sont trouvées sur des vieux pilotes qui ne servent plus, parce que c'est du matériel. On parle de connexion ISDN, on parle de des choses qui n'existent
Numéris,
plus depuis.
Numéris, on appelait ça.
Voilà, en France, c'était Numéris. Merci, je l'avais oublié celui-là. Donc, c'est des choses qui n'existent plus depuis 20 piges. Donc, c'est pas grave que ça ait été retiré du noyau. C'est plus gênant pour la scène du rétro-computing, donc les gens qui s'amusent à faire marcher justement du vieux matériel en lui faisant faire des choses pour lesquelles ça n'a jamais été prévu. Et autre conséquence, alors en dehors du noyau Linux, on a eu la Fondation Mozilla qui a communiqué. Ils ont eu accès à Mythos de OpenAI, donc un modèle spécialisé dans la recherche de failles de sécurité, et ils sont contents parce qu'ils estiment qu'il y a 271 failles qui auront été corrigées grâce à cet accès à ce modèle. Et moi, je vois pas ça comme c'est la fin du monde ou le logiciel est pourri parce qu'il y a plein de failles qui ont été trouvées. On ne sait pas combien de failles ce modèle pourrait trouver sur le code de Windows. On ne le saura probablement jamais parce que Microsoft n'a aucun intérêt à communiquer sur ça. Mais par contre, on sait que ça a trouvé toutes ces failles sur Firefox et surtout que la plupart ont été, enfin que toutes ont été corrigées. Donc ça veut dire que Firefox, donc dans la version 150, la version qui est sortie il y a quelques jours, Firefox n'a plus toutes ces vulnérabilités. Qu'elles soient exploitables ou non, elles ne sont plus là. Des humains auraient mis beaucoup plus de temps à le trouver. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas si négatif que ça sur l'IA pour la recherche faille de sécurité. Par contre, on ne parle à aucun moment de l'impact écologique.
Et à condition que les failles de sécurité soient bien corrigées. Condition sine qua non.
Évidemment. Mais l'IA pourrait détecter le fait que la faille soit toujours là.
On parle d'autres types de failles, Pierre, dans la chaîne d'approvisionnement. Donc,
Voilà.
Donc, sur les modules qui servent, donc les bouts de code, qui génériquent les bibliothèques de code qui permettent de, les briques qui permettent de faire des logiciels, puisque dans le développement logiciel moderne, et, bon, des fois, on peut aussi le regretter. Hein, les puristes vont trouver que ça fait du code. On ne comprend pas forcément comment il fonctionne, mais en tout cas, on utilise des briques de base et on ne redéveloppe pas tout de zéro.
Ah, alors, mon ami.
Moi, pour ma part,
je considère que. On va prendre un exemple. Vous voulez développer un logiciel ultra basique qui affiche une fenêtre avec un bouton au milieu et quand vous cliquez sur le bouton au milieu, ça affiche bonjour à l'écran.
Là, vous utilisez une bibliothèque graphique.
Vous n'allez pas vous amuser à faire. Alors, je dois demander. 10 pixels par 100 pixels et puis dessus, alors pour écrire un B, donc du coup je dois prendre une police de caractère, décoder la lettre B et savoir comment... Vous ne saurez jamais faire une fenêtre en procédant comme ça, ça va vous prendre des années, je blague pas.
Vous allez redévelopper donc du coup une bibliothèque graphique.
Voilà, vous allez redévelopper tout ce qui est déjà fourni par le système d'exploitation sous forme de bibliothèque ou des bibliothèques tierces qui vous permettent de travailler avec plusieurs systèmes d'exploitation.
Donc, mais il y a la bonne bibliothèque et la mauvaise bibliothèque, Pierre.
Exactement. Et c'est, en fait, on n'est pas seulement sur la bonne bibliothèque ou la mauvaise bibliothèque, on est sur les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques de développement. Là, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un projet où j'ai vu le fichier de la liste des dépendances, on était à plus de 15 000 lignes. Je sais pas combien il y avait de lignes par dépendance, mais il n'y en avait pas 100.
Donc en plus, au moment, on peut automatiser les dépendances.
Exactement. Et en fait, et c'est là où on tombe sur les failles, il y a eu une grosse évolution. Moi, quand je développe aujourd'hui encore en C++, quand j'ajoute une dépendance, c'est pas facile. C'est pas difficile, mais ce n'est pas facile. C'est pas juste, allez, hop, j'ai une dépendance et ça marche. Alors quand je cible du Linux, c'est facile. Mais il faut que la dépendance soit dans les paquets déjà. Donc ça met un frein. Et puis quand j'ajoute une dépendance, pour ma part, je me dis, ok, je fais confiance à ça pour que ça évolue pas dans un sens où ça va planter et que tous les 4 matins, je dois refaire mon application. Ça, j'ai un ensemble de règles. Par opposition, on a le monde merveilleux de Python et de JavaScript. J'inclus Python maintenant parce que c'est parti complètement en vrille.
JavaScript, c'est vrai que c'est connu. C'est vrai que
JavaScript, c'est connu.
Qui appellent les librairies
JavaScript, on en a déjà parlé.
Une obscure bibliothèque, si ça corrompu.
Et en fait, le problème, c'est que dans ce milieu-là, c'est devenu trop facile d'avoir une infinité de dépendances. Et même Rust est en train de partir dans cette direction-là, et c'est extrêmement dangereux. Ils ont décidé de simplifier la gestion des dépendances, mais ils l'ont tellement simplifié que c'est devenu trop facile de dépendre d'autres et de se dire. Oh, allez, là, pour ça, plutôt que d'écrire une fonction de 10 lignes ou une fonction de 50 lignes, je vais dépendre d'un autre truc. Et en fait, le problème, c'est qu'on en arrive à avoir des bibliothèques Alors là, celle-là, je ne la connaissais pas. X-Inference, qui permet d'utiliser plus facilement des modèles d'IA localement. Elle a été ciblée, et donc il y a des versions qui fuitent tout un ensemble de données, donc des clés SSH, des secrets ou autres, et qui visent en particulier des secrets sur AWS. Et une autre faille de sécurité qui a été sur un paquet dans NPM. Donc, il y a un malware qui s'est fait passer pour une mise à jour de Bitwarden, un outil de stockage de mots de passe, et donc qui visait, lui, en particulier GitHub, donc pour corrompre d'autres sites, enfin d'autres logiciels à son tour. Et en fait, à partir du moment où on ne vérifie pas les mises à jour, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement est cassée sur ces plateformes-là. J'ai pas d'autres mots. Elle se fait attaquer à un tel point, on ne peut pas faire confiance, et il y a des dépendances, des dépendances, des dépendances. C'est tellement facile de dépendre de 100 trucs que tous les logiciels sont en danger sur ces plateformes-là. Et voyons les choses du bon côté, du côté du projet Debian. Donc Debian est une distribution Linux.
Donc la solution serait les reproducible builds.
Tout à fait, qui est plutôt pas mal. Alors par contre, ça ne marche pas pour les logiciels Python ou JavaScript, parce que les reproducible builds s'implique qu'on ait fait une build, donc une compilation.
Des langages interprétés.
Voilà, alors que là, les reproducible builds visent surtout les langages compilés. Et donc l'objectif, à partir de la prochaine version majeure de Debian, c'est qu'un logiciel ne peut être intégré dans Debian que si on peut reproduire à l'identique un paquet depuis la source. Et c'est énorme comme évolution. C'est-à-dire qu'il est hyper facile d'avoir, par exemple, la date de compilation intégrée dans le logiciel compilé. C'est très fréquent. Ben ouais, mais à partir du moment où on fait ça, quand on recompile le programme, on n'a plus le même programme bit par bit. Donc on a un problème. On ne prouve pas qu'on n'a pas eu une corruption de la chaîne d'approvisionnement.
On vérifie par un checksum ou...
On vérifie par un checksum bit par bit, oui. Et donc, il est décidé de fixer la date de compilation. La date de compilation, non, ce n'est pas une variable, c'est constant. La date de compilation, ça va être ça, point. Et là, j'ai donné juste un exemple hyper basique des fois de le nom du dossier dans lequel la compilation a lieu fuite dans l'exécutable, même très souvent. Du coup, le nom du dossier doit être fixe. Le nom de la machine qui a compilé fuite, il doit être fixe aussi. C'est des tonnes de règles, mais c'est hyper, hyper précis. Mais c'est ce qui va faire que Debian, à partir de la prochaine version, pourra prouver que non, la chaîne d'approvisionnement n'a pas été cassée. Ou elle a été cassée à un point qui nécessite des ressources étatiques pour être cassée. Parce que oui, il sera toujours possible de casser une vérification comme ça, mais ça va nécessiter un tel effort que ça n'en vaudra pas la peine pour la plupart des attaques.
Merci Pierre. La dégeekalisation, c'est après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Fresh Body Shop, Weightless. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. Still on her way to the sky. Fresh Body Shop, Weightless. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et toutes. C'est l'heure de la dégeekalisation. Donc le problème, monsieur, ce n'est pas le capitalisme, ce n'est pas l'immigration, mais la cause de tous nos problèmes, monsieur, c'est le développement des stops. Je ne connaissais pas celui-là. Mais j'aime pas trop les rhétoriques, la cause de tous nos problèmes, et peut-être était-ce ironique hier.
C'est un peu une blague. Quelques personnes devraient se souvenir de ce vieux clip. C'est vieux, c'est très vieux. Ça date de 1999. C'est un certain Steve Ballmer qui parle à une conférence et donc qui crie développeur, développeur, développeur.
C'était à l'époque numéro 2 de Microsoft.
À l'époque numéro 2 de Microsoft, connu notamment pour avoir été opéré des cordes vocales parce qu'il gueulait trop, connu comme Monkey Boy parce que à cause de ses agitations, connu pour son lancer de chaise en réunion, un charmant personnage. Et en fait, j'ai vu, ça fait quelques temps, ça fait quelques années même, que je vois régulièrement passer des articles, alors soit dans la scène du rétro-computing, soit en dehors de cette scène-là, des gens qui ont une forme de nostalgie un peu bizarre des anciennes interfaces graphiques. Mais quand je dis bizarre, c'est pas péjorativement. C'est pas...
Original, tu voulais dire.
Non, même pas original. C'est pas vraiment de la curieux. Nostalgie, en fait. C'est une nostalgie, mais qui ne mérite pas ce nom-là. Ils sont pas en train de se dire « c'était mieux avant », ils disent...
Non, c'est de la nostalgie. C'est pas forcément mieux avant, la nostalgie.
Des fois, ils regardent même pas ça en disant « ah, j'aimais bien ce que j'utilisais », c'est parce qu'ils l'ont jamais utilisé. Alors moi, pour ma part, le dernier Windows que j'ai utilisé sérieusement, c'est Windows 2000. Donc, moi, quand je vois un Windows 2000, que je le compare à un macOS dernière version, honnêtement, je choisis sans hésiter le Windows 2000. C'est-à-dire si c'est de la merde macOS. Mais passons. Lorsque je regarde même Windows 2000 par rapport au Windows plus récent, en fait, l'interface des Windows Server par rapport au Windows récent, en desktop, ça n'a rien à voir et ça a commencé à bifurquer à partir de Windows 2000. Mais l'une des grandes choses qui a changé il y a une vingtaine d'années, c'est l'apparition du développement d'applications web et la chier d'applications web qu'on retrouve partout. Là, j'ai changé de travail, toute une gamme d'outils merveilleux qui sont tous des applications web et il y a des applications desktop qui sont disponibles et c'est juste des applications web avec un gros maquillage qui s'appelle Electron piège à con. Mais voilà, c'est pas parce que tu mets du rouge à lèvres sur un cochon que ça devient quelque chose de joli et d'agréable à utiliser.
C'est assez spéciste comme remarque.
Ouais, mais là, franchement, ça m'a franchement énervé d'utiliser ces trucs-là. Et donc, ben, j'ai vu plusieurs articles qui tendent à expliquer en fait tous ces problèmes-là, à la fois donc cette nostalgie des systèmes d'il y a une vingtaine d'années, et aussi bah, pourquoi qu'on n'en fait plus des applications comme ça. Parce que là, j'ai changé de boulot il y a 2 semaines, l'une des premières tâches c'est utiliser les technologies de la boîte pour développer une application, peu importe l'application. Moi, j'ai décidé de faire une application desktop. Je suis probablement le premier à avoir fait une application desktop avec les technologies de la boîte. Et du coup, j'ai trouvé plein de bugs et de trucs pas bien documentés. Mais plus personne ne fait d'application de desktop aujourd'hui. Pourquoi ? Et donc, on va revenir. Developers, developers, developers. Pourquoi est-ce que Steve Ballmer chantait ça ? Et pourquoi il avait raison de chanter ça à l'époque ? Microsoft a gagné dans les années 80, les années 90, ils ont gagné avec Windows, MS-DOS avant et Windows, à la fois en s'attaquant aux fabricants de matériel pour leur faire vendre et préinstaller Windows, mais aussi en ciblant les développeurs et en leur fournissant des outils de plus en plus simples, ou plutôt de moins en moins compliqués, pour développer et diffuser des applications. Et à partir de la fin des années 90, début des années 2000, il n'y a plus d'évolution majeure sur ce front. Alors certes, il y a eu l'introduction de .NET, c'est à cette occasion-là que Steve Ballmer a chanté comme ça. Mais il n'y a pas eu de grandes évolutions et il y a des choses qui n'ont jamais été introduites. Ça a commencé à apparaître plus récemment, mais Microsoft n'a jamais fait l'effort pour améliorer le développement d'applications de bureau. Et pire encore, il y a commencé à y avoir des guerres internes chez Microsoft où il n'y a plus eu une seule solution pour développer des applications. Alors, à l'époque, dans les années 90, la solution c'était Win32 ou MFC. Ensuite, les évolutions. Il y a eu WinForms, WPF, WinRT XAML, WP XAML, WinUI 3, et il y a eu encore d'autres variantes de ces trucs-là. On est sur une dizaine de façons différentes de développer des applications depuis la fin des années 90, début des années 2000 jusqu'à maintenant. Ils ont fait plein de trucs dans tous les sens, et du coup...
Et ça change quoi pour les développeurs, concrètement?
C'est incompréhensible, justement.
Utiliser l'un ou l'autre.
Eh ben, il y a des trucs qu'on peut faire ou qu'on peut ne pas faire. Et du coup, non, mais c'est vraiment compliqué. Il y a des trucs... Enfin, l'utilisation...
Là, même moi, tu m'as largué, là.
Ah ouais, non, mais c'est un peu fait exprès. Honnêtement, moi qui suis de loin le développement d'applications Windows, toutes ces technologies-là, je les ai vues passer, je les ai vues apparaître. Mais WinForms, par exemple, celle-là, c'est encore relativement proche des précédentes. WPF, ils ont décidé de tout revoir. Et WinRT XML, ils ont encore tout revu. WP, ils ont encore tout revu différemment. Et en fait, à chaque fois, ça vient, c'est des évolutions. C'est Microsoft, ils se sont enfermés. Microsoft, ils ont été très très bons pour développer Windows et avoir une couche de compatibilité intouchable. Franchement, chapeau les mecs. Mais le problème, c'est que ils ont tellement fait fort sur la couche de compatibilité que, prenons aujourd'hui, vous êtes développeur, vous utilisez une API qui avait été conçue à l'époque de Windows 3.1 sur une application que vous faites pour un Windows 10, 11, pardon. Elle aura l'apparence de Windows 3.1, votre application. Parce que vous avez utilisé l'API de l'époque. Alors, c'est un peu perturbant. Ça fait que votre application, elle ressemble à rien.
Je suis curieux, là.
Ben non.
J'ai envie de lancer une application 3.1 sous un Windows récent, là.
Ah ben oui, ça fonctionne.
De Windows 3.1.
Elle aura des morceaux qui auront la tête d'une application Windows 3.1. Le sélecteur de fichiers, tu peux te retrouver avec le sélecteur de fichiers de Windows 3.1 quand tu demandes bien. C'est encore un jeu de trouver dans Windows 11. Alors, dans Windows 11, il y en a eu quand même pas mal qui ont disparu. Mais dans Windows 11, de retrouver des vieux écrans qui datent de Windows 3.1. Ça se trouve. C'est pas impossible. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et en fait, Microsoft a détruit le développement d'applications desktop, finalement. Parce que ils se sont imposé une telle sacro-sainte compatibilité, et ils ont jamais été capables, là, dans toutes les évolutions que j'ai citées, aucune n'a toutes les fonctionnalités de la première couche. Toutes les fonctionnalités de Win32, non, toutes ne sont pas présentes partout. Et aujourd'hui, développer une application Windows, c'est très compliqué. L'un des problèmes fondamentaux qui était la distribution des applications et leur mise à jour n'a pas été franchement résolu par Microsoft. Alors, il y a le Windows Store maintenant, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. Et honnêtement, je ne sais pas si les utilisateurs de Windows ont réussi à prendre le pli d'utiliser le Windows Store pour installer des applications. Et aujourd'hui, en fait... Il y a plein de choses. Alors ça, vous pouvez le faire comme ça, mais ça. En fait, là j'ai eu l'exemple. Enfin, il y a un développeur qui a fait un exemple. Il a développé une fonctionnalité. Il avait une application. Il avait besoin de plusieurs fonctionnalités. Mais alors, il y a ça qui est faisable, mais uniquement avec les API Win32, donc les vieilles API. Il y a ça qui est faisable avec telle technologie, mais attention, il faut faire attention parce que ça ne marche pas forcément dans tous les cas. Il y a ça qui se fait encore différemment, il y a ça qui se fait différemment. En fait, c'est devenu chaotique parce que Microsoft, on est sur le prix de la compatibilité. Et la conclusion des développeurs, c'est que oui, la compatibilité nous coûte aujourd'hui le fait que ce soit tel... C'est tellement compliqué que mieux vaut développer des applications web pour Windows.
Merci Pierre.
Allez.
Avant quelques actualités libres.
Une dernière aussi là-dessus, qui était aussi un peu une actualité que je voulais faire. On a un autre problème aussi, c'est l'attrait du minimalisme. Alors le minimalisme, c'est une mode dans la conception d'interfaces graphiques et autres, et que moi je trouve à chier.
Es un fervent pratiquant de KDE.
Oui, KDE n'est pas dans le minimalisme, mais justement, le minimalisme, c'est pas seulement une question de KDE ou GNOME. Le minimalisme, c'est aussi une façon de dessiner des icônes. Et les icônes d'aujourd'hui, je suis désolé, elles sont illisibles par rapport aux icônes des années 90 et 2000 à cause du minimalisme. Et j'ai été amusé de trouver un article qui explique que le minimalisme, c'est peut-être aussi juste une conséquence de la réduction des prix et finalement du capitalisme qui vise à non pas faire le meilleur produit, mais le produit au moins cher.
Après, le minimalisme, le bon minimalisme, c'est compliqué.
Oui, trouve-moi parce que j'en trouve pas.
Allez, un morceau de musique avant quelques actualités. Logiciel libre, Ed Napolis, Addiction is Me. Vous écoutez Echo des Glous sur Radio Campus.
Ah. faces look the same. Different bodies, same old game. Every touch just disappears when your ghost is what appears. Yeah. When my heart should be neon rain on mirrored glass shows the things I can't surpass. I could drown and call it love, still you're all I'm thinking of.
C'était Ednapoli, The Edition is Me. Vous écoutez les codes de nous sur Radio Campus 106,6 et la radio terrestre et campuslib.com. Et on va se quitter avec quelques nouvelles logiciels libres, bien évidemment. On ne s'appelle pas les codes de nous pour rien. Et on va parler financement du logiciel libre, Pierre.
Tout à fait. Deux actualités qui sont passées les dernières semaines. Alors, on va commencer par du moins bon et on va finir par du plus positif. On va parler tout d'abord de PG Backrest. Alors, ce genre de logiciel, on n'en parle jamais dans cette émission. C'est une actualité qui date du 27 avril. Depuis, il y a eu des bonnes nouvelles, heureusement. Mais donc, PG Backrest est un logiciel de sauvegarde et de restauration de bases de données PostgreSQL.
Alors, on ne t'intéresse parce que...
Alors, moi, c'est un intérêt personnel, mais là, l'exemple est très, très intéressant. Donc, PG Backrest est un outil indispensable. C'est vraiment, sur la gestion de base de données, c'est la référence en sauvegarde et restauration de base PostgreSQL. C'est le logiciel incontournable. Qui est développé par une seule personne, David Steele, que je salue, qui parle français, il est très sympathique. Et sauf que, en fait, David, il n'était pas payé. Il n'était plus payé pour développer son logiciel que tout le monde utilise. Vraiment, je connais des tonnes d'entreprises qui sont ultra dépendantes de ce logiciel-là. Et ben non, personne, il n'était pas payé. C'était un problème. Donc, du coup, il n'est plus maintenu. Et du coup, il a annoncé, c'est plus possible. Je ne peux plus maintenir parce que, enfin, je peux plus le faire. Ça fait 13 ans que je travaille sur ce logiciel-là. Pendant pas mal de temps, j'ai été payé par des entreprises. Mais Depuis le rachat d'une des entreprises du monde de PostgreSQL, j'ai maintenu PG Backrest, et tout en cherchant à avoir quelqu'un pour financer ce travail, mais ça n'a pas marché. Et je n'ai pas les financements aujourd'hui pour viabiliser le développement du projet. Alors, heureusement,
il y a eu un petit peu de réaction tout de même.
Il y a eu beaucoup de réactions, heureusement. Sa boîte mail a explosé, mais...
Il faut quand même râler pour voir les
sous. Sans déconner. Voilà, on est sur un logiciel... C'est quand avec des anciens collègues, quand on a vu l'annonce, on était sciés.
T'as fait des cours d'économie avec toi en école d'ingénieur. Il y a des choses. On a intérêt à le faire, mais on a encore plus intérêt à ce que quelqu'un d'autre le fasse.
Voilà, et donc là, tout le monde avait intérêt à ce que quelqu'un d'autre paye pour ça.
Bonne nouvelle pour KDE en revanche, qui récupère 1,2 million de dollars.
Non, d'euros.
D'euros, pardon.
D'euros. Ah, voilà. D'un fonds d'investissement souverain. Donc, c'est en Allemagne. L'Allemagne a décidé d'envoyer 1 285 200 euros au projet KDE sur les années.
C'était un projet d'origine allemande.
Tout à fait. Et sur les années 2026 et 2027 pour améliorer des tas de choses autour de KDE. Donc, Plasma, la distribution KDE Linux, améliorer les systèmes de sauvegarde, de restauration, améliorer. Plein de trucs un peu partout, dans le but, tout simplement, d'encourager une solution qui est souveraine, puisque c'est développé en bonne partie par des développeurs européens.
Et on termine avec quelques sorties logicielles. Firefox 150, on ne se gossera pas du numéro de version.
Non, et donc c'est celle qui a des centaines de corrections de failles de sécurité, des améliorations de droite à gauche.
Ubuntu 26.04.
Donc la nouvelle version LTS, la version qui sera supportée pendant plusieurs années, et la dernière version avant l'introduction d'IA dans Ubuntu.
Ça, on n'a pas parlé, mais...
On en parlera
une prochaine fois. Il y a des choix éditoriaux. LXQt 2.4, je connais moins.
LXQt, c'est l'un des environnements de bureau légers, et donc c'est l'un des plus gros environnements de bureau légers avec XFCE, donc c'est un concurrent de KDE et GNOME qui permet de ressusciter éventuellement de vieilles machines, et de mémoire, c'est celui qui est utilisé par Raspberry Pi.
Et on termine avec Fedora 44.
Là aussi, dernière version avant une introduction d'IA apparemment. Ah. Et donc c'est la première version c'est l'une des premières versions, je crois, à mettre sur pied d'égalité KDE et GNOME dans la mise en avant des versions de la distribution.
Un petit point sur l'agenda, mardi 26 mai, donc le dernier mardi du mois, de 20h à 22h au Café Citoyen à Lille, place du Vieux Marché aux Chevaux, donc la permanence associative autour du logiciel libre, donc comme j'ai dit, au Café Citoyen, avec des boissons bio et équitables et une ambiance sympathique et chaleureuse. C'était le 297e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve, nous, dans deux semaines pour le 298e numéro de l'Écho des Gnous qui aura lieu le 31 mai à 19h, comme d'habitude, sur Radio Campus. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec une émission de Funk. Et tout de suite, vous avez rendez-vous comme... tous les dimanches à 20h avec Chupa Pimento. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Bon dimanche.
Bon dimanche à tous.
Au revoir à tous.
Bye.
Et à toutes.
Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des...